La chronique dans ce temps-là avec Philippe Basque, une invitation du village historique acadien.
Et on va parler livres ce
oui,
matin.
Oui, bonjour Philippe.
Bonjour à vous deux.
On peut mentionner que la semaine dernière, c'était la journée du livre, c'était le 23 avril.
Oui, c'est ça. Donc, c'était la journée internationale du livre. Et puis, c'est ça, je me disais, le printemps, dans ce temps-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mm-hmm. Il y a même la pêche là, qui va commencer demain. Là. Fait que moi, je passe souvent devant le pont de Pocmouche. Et puis, les pêcheurs le pêchent à la truite. J'en ai même vu depuis quelques jours qui sont là. Ça va être plein de monde. Il y a la pêche au crabe, puis il y a la pêche au homard aussi qui a commencé.
Oui.
Même nous autres, on parlait hors d'onde, là, que même dans un mois, Village acadien va ouvrir, hein, on est quasiment le mois de mai.
C'est le 6 ou le 5?
C'est le jeudi, là. Je ne me rappelle plus de la date. Là. C'est
le jeudi, la première semaine. Ça va être le 5.
Le 5 juin. Donc, c'est dans un mois, là, fait qu'on invite les gens à venir nous visiter durant cet été. Et puis, c'est ça, donc, à chaque année, il y a toujours une journée du livre. Et puis, là, c'était la semaine dernière, fait que j'avais parlé d'un autre sujet. Mais il y avait deux livres là, que j'ai lus dernièrement concernant des sujets acadiens. Il y en a un qui a été publié cette année, tandis qu'il y en a un autre, c'est une biographie qu'on m'a prêtée, qui date de quelques années passées, sur un chirurgien, sur un médecin, qui est toujours vivant aujourd'hui. Sa fête, c'est le 18 mai, et il est quand même assez âgé, là. Mais lui a œuvré beaucoup au Québec, qui est le docteur Lorenzo Haché. Et puis lui, c'était un type originaire de Caraquet. Donc lui, c'est le fils à l'Ange Haché, puis Marie, Anne-Marie Foulem. Donc, lui, ça, la maison où est-ce qu'il a grandi, on m'a raconté que c'était à peu près où est-ce la Fédération des caisses aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, où est-ce qu'il y a ce bâtiment-là à Caraquet. Et puis, lui a vécu une enfance là-bas. Il faut faire des études, puis il va devenir chirurgien. Fait, dans son livre, il raconte un peu son parcours. Puis, il dit que, tu sais, quand il parle de sa famille, c'est une famille typique là, des années 30-40. Ils sont très religieux. Puis, il y avait... certaines de ses sœurs vont faire des études aussi, donc ils vont devenir des... On appelait ça dans le temps des gardes malades enregistrés. Fait quand on voit le nom de la madame, on voit GME à la fin, c'est comme quoi qu'elle a eu un diplôme. Là. C'était ça. Aujourd'hui, je sais pas s'ils mettent une abréviation à la fin de leur nom, mais en tout cas, elle avait fait des études aussi. Fait c'était des gens qui étaient... qui aimait l'éducation, puis envoyer leurs enfants se faire éduquer. Lui, à Caraquet, va aller à l'école de la Pointe Rocheuse. Ça, c'est une école qu'il y avait à Caraquet. Ensuite de ça, il va aller au couvent à Caraquet, ce qui a beaucoup de un parcours typique là, de ce temps-là. Et puis, après avoir fait ses classes au couvent à Caraquet, il va aller au collège de Bathurst faire son cours classique. Et ça aussi, beaucoup de gens faisaient leur cours classique. Bathurst, c'était une place où on allait beaucoup. C'était tu avais le collège, mais tu avais l'Université du Sacré-Cœur. Où est-ce qu'il est le campus aujourd'hui du CCNB? Là. Mm-hmm. Et puis, eux donnaient des diplômes. Là. Tu peux avoir un diplôme là-dedans. Fait que lui a eu son diplôme en 1951. Et puis, à partir de 1951 jusqu'au début des années 60, là, lui, il va y aller étudier. Puis, à chaque fois qu'il va y aller étudier pour faire sa médecine, ben, il revient l'été visiter ses parents. Puis, il se trouve toujours des emplois d'été pour payer ses études. Parce que dans ce temps-là, même au collège, là, tout ça, fallait toujours... payé. Et puis, à la maison, ben, ils font l'agriculture typique là, à Caraquet, tu sais, récolter des pommes de terre, des navets, l'avoine, le foin, la vie sur la ferme, ça n'avait pas changé. Les années 20, les années 30, 40, 50, hein, on faisait encore des jardins. Lui raconte que même l'été, ils étaient encore en train de faire le séchage de morue sur les vignaux, là, tu sais. Alors, les vignaux, c'est une espèce de structure. Quand on pêche des morceaux de poisson là, de morue, il faut le sécher au soleil. Fait, il faisait encore ça, même lui a connu ça. Cette époque-là, que nous autres, on parle au village acadien de tout ça, sécher la morue, mais on en parle comme quoi que c'est dans les années 1800. Mais c'est ça fait jusqu'à les années 1950, dans son cas, à lui, 1950. Il parle aussi de quand il pêchait, justement, dans ce temps-ci, la première pêche du hareng. Il disait que la première pêche du hareng, c'était pour remettre dans les jardins et engraisser leurs jardins au printemps. Et puis, par la suite, là, il y avait une autre pêche du hareng que là, c'était pour manger, qu'ils salaient le hareng, mettaient ça dans les tonneaux. Puis là, il y en avait pour toute l'année. Parce que le hareng, c'était quasiment la base d'alimentation des personnes âgées. Là, ils vont s'en rappeler. Nous autres, on dirait qu'on mange plus ça, là, trop, le hareng. Là. Moi, j'en mangeais qu'au jour de l'an, comme tradition. Mais dans ce temps-là, les autres n'avaient pas le choix. Mais là, lui, il va entreprendre des études en médecine à Ottawa de 1951 à 1957. Il va revenir... de différentes régions l'été pour travailler. Ensuite de ça, il va faire des stages, des résidences en tant que médecin. Il va faire un stage à Ohio. Et puis, dans ces années-là, il va s'acheter sa première voiture. J'ai marqué ça. Il s'est acheté une Chevrolet en 57 qui coûtait 1 700 $.
Wow!
Donc, 700 $, une voiture. Donc, c'était pas, c'est pas les prix d'aujourd'hui. Et puis, lui, c'est une de ses premières résidences, et il va faire ça à la clinique Mayo. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce clinique-là. Moi, ça me disait de quoi, mais ça me disait pas.
Mayo?
En même temps. Mm-hmm. Mayo, ouais, comme mayonnaise, là, mais c'est Mayo, c'est un nom de famille. Puis, ça, c'est, j'ai regardé sur Internet, puis c'est un des meilleurs hôpitaux aux États-Unis encore aujourd'hui. Fait qu'il se démarque beaucoup, cet hôpital-là. Puis lui, il était chanceux d'aller faire sa résidence-là, puis d'avoir été offert un poste qu'il n'a malheureusement pas pu prendre, mais c'est là qu'il a développé son éducation pour savoir comment faire des opérations, la chirurgie, se développer ça. Lui, il était à Rochester, au Minnesota, mais la clinique Mayo, elle, après ça, elle n'a pas juste cet hôpital-là, elle en a d'autres. Puis je regarde hier, là, les statistiques, c'est beaucoup d'investissements faits là-dedans.
Oui.
Oui, dans les tops, beaucoup d'investissements, beaucoup d'employés aussi. Vraiment une grande hôpital de chercheurs aussi, puis de gens qui se forment, là, des gens, pas en éducation, mais qui des étudiants, des gens en résidence, tout ça. Mm-hmm. Fait que lui, il va se tourner vers la chirurgie entre-temps. Là. Et puis, c'est là qu'il veut se développer comme chirurgien. Il veut aider aussi son frère, parce que son frère vit encore à Caracas. Puis, son frère avait un problème de vessie. Là. Et puis, lui, il essaie d'étudier le cas à son frère pour régler ça, parce que c'est un peu ça, un chirurgien, un médecin. Soit on étudie des cas qui sont difficilement réglable, puis on voit ça qu'on aimerait d'améliorer la vie des autres. Là. Fait que entre-temps, lui, quand il est à la clinique Mayo, il va étudier le cas de son frère. Puis finalement, quand il va être dans un autre hôpital, il va suggérer ça au chirurgien en chef de l'hôpital Husky. Parce que lui, il ne peut pas le faire encore. Il est trop jeune. Puis il n'a pas l'autorisation exacte de faire l'opération. Là, parce que je ne sais pas si c'est une question d'expérience, une question de le titre qu'il y a dans l'hôpital, je ne sais pas trop. Mais finalement, il va demander au chirurgien en chef de cet hôpital-là, et puis lui va l'autoriser à faire l'opération. Fait qu'ils vont être les deux ensemble, là, au moins à faire l'opération. Alors, la façon dont ça se passe, c'est que la vessie fonctionnait mal, il fallait qu'il urine comme trop souvent là, dans la journée. Alors, il y a un terme exact, là, je me rappelle, je pense pas que je l'ai pris, là, un terme d'hôpital. Là. Mais il va couper la vessie, il va couper des morceaux de l'intestin qu'il va rattacher à la vessie, puis c'est comme ça que ça va régler le problème. Là. Fait que lui avait guéri son frère de son problème, qui avait été causé dans le temps par une tuberculose. Fait que la tuberculose, elle attaquait souvent différents morceaux là, du corps. Là. Il n'y avait pas juste les poumons qui pouvaient attaquer, les reins. Puis, je sais pas, on en a parlé il n'y a pas longtemps passé, il me semble, la tuberculose, que c'est une maladie qui était beaucoup présente dans nos régions. Il y avait des gens qui décédaient, mais il y avait des gens qui en guérissaient, mais avec des séquelles, comme c'était le frère du docteur Haché. Fait qu'il a guéri au tournant des années 60.
Là. OK.
Puis pendant qu'il était là aux États-Unis, il raconte un des grands personnages qu'il a rencontré quand il était à la clinique Mayo, c'est l'écrivain Ernest Hemingway. Puis aujourd'hui, en plus, c'est la journée du livre. Hemingway est un grand auteur. Fait qu'il a côtoyé pendant un mois de temps à jaser avec lui, là, tu sais, juste avant que Hemingway est décédé, il est mort en 60 ou en 61. Fait que lui, il a croisé là. Ensuite de ça, il est revenu au Canada. Il est revenu au Canada parce que en 60, aujourd'hui, on voit qu'il y a des conflits entre le Canada et les États-Unis, mais dans ce temps-là, il y avait eu des tensions aussi à cause de la crise des missiles de Cuba entre la position du Canada et la position des États-Unis. Fait qu'il y avait eu des visas qui avaient été refusés, des permissions comme ça. Puis il a dû revenir au Canada. Et puis à partir de ce temps-là, là, il va s'installer à Saint-Eustache. Il va devenir pas mal le grand chirurgien de l'hôpital de Saint-Eustache, qui est au nord de Montréal. Il va faire sa vie là, lui, par la suite. Dans les statistiques qu'il propose dans son livre, il dit que durant sa carrière, qui a duré plus qu'une trentaine d'années, il a fait 40 000 chirurgies sous anesthétique, puis il y a un autre 6 000 chirurgies locales, là, jusqu'à ses juges gelés. Fait qu'il a fait comme entre 45 000 et 50 000 chirurgies qu'il a faites, donc c'est beaucoup. Il a beaucoup participé aussi à l'avancement des soins de santé dans sa région, le développement de l'hôpital, l'agrandissement, les différents services, le développement, tout ça. À la fin de sa carrière, quand il a pris sa retraite, lui, il a décidé de se joindre à des bateaux de croisière comme médecin. Parce que je savais pas ça, mais les bateaux de croisière, là, ils ont besoin d'un médecin officiel pour l'équipage, puis pour le bateau, probablement en cas qu'il y a quelque chose qui arrive. Fait que lui, il a fait ça pendant plusieurs années. Il était à bord il faisait partie de l'équipage des bateaux de croisière. Lui, ces bateaux de croisière, c'était pas dans les Caraïbes, c'était à Singapour, puis en Malaisie, en Asie. Là. Fait que c'était des bateaux de croisière. Il a été aussi sur des bateaux, des voiliers aussi. Fait qu'il à bord là-dessus. Il a aussi fait du bénévolat, il a aussi fait de la chirurgie en Afrique, en Tanzanie, donc dans un village aussi près du Kilimandjaro. Donc, il a quand même pratiqué la chirurgie.
Wow, toute une vie, là-bas. Hein?
Il est encore vivant, vous dites, Philippe?
Oui, il va avoir 95 ans. Je n'hésite pas à dire son âge parce qu'il le dit dans son livre.
OK.
Ouais. Puis, c'est ça, il a aussi fait des cliniques de chirurgie en Malaisie, a enseigné la chirurgie dans ces pays-là pour établir des cliniques de chirurgie ou des hôpitaux.
Ouais, ouais.
Là, c'est vraiment une vie très remplie. Puis, il vit encore, les dernières années, il venait encore ici, là, dans la région de Caracas avec son automobile. Là. Fait qu'on se salue. Là.
OK.
Mais ça, c'était un autre. J'ai encore du temps pour parler un petit peu,
oui. Une couple de minutes.
OK, mais l'autre livre que je voulais parler, c'est lui de Ghislain Basque, apparu au début de cette année, qui est Le Temps de rire 2. Enfin, Ghislain Basque est de la famille Basque. Lui, c'est de la famille Basque qui chante, pas la famille Basque de moi, là. Je me suis souvent demandé.
Ah, vous chantez pas, vous, Philippe?
Moi, je chante pas. Non, je chante pas.
Mais vous êtes un bon conteur.
Ouais, non, mais l'autre, il chante. Puis c'est ça, dans son livre, ben, il raconte beaucoup la vie quotidienne un peu que. Qu'est-ce que je fais, moi, mais lui, je dirais que c'est tout sur le 20e siècle, dans le fond, puis un petit peu aujourd'hui, parce que lui est né de la génération des baby-boomers, et puis il raconte la vie de ses grands-parents qui datent début du siècle. Fait qu'on retrouve des éléments d'histoire sur une centaine d'années, dans le fond. Puis des fois, il parle des anecdotes qui sont beaucoup plus récentes aussi des dernières années. Il parle beaucoup des personnages du Grand Tracadie, pas juste de Saint-Irénée, où est-ce qu'il vient, mais de Tracadie, du canton des Basses, de Benoît, de Saint-Pierre, de tout un peu partout, de la grande région de Tracadie. Différentes anecdotes, des anecdotes beaucoup sur la religion, hein, dans le temps. La religion était très, très présente. Alors, il y a toutes sortes d'anecdotes ou d'histoires ou de choses qui se passent lorsqu'on va à la messe ou lorsqu'on fait la grande demande, par exemple, ou lorsqu'on va voir le prêtre, la visite paroissiale. Il relève aussi beaucoup le parler d'autrefois, comme par exemple des Bessons. Moi, ma grand-mère parlait comme ça. Comme
des jumeaux, oui.
Ouais, des jumeaux. Moi, je ne savais pas c'était quoi des jumeaux avant que j'entende ma grand-mère dire le mot Besson. Là. Puis lui, il y a toujours des blagues ou des histoires par rapport à attaché à ça. Il disait qu'à un moment donné, il y a des Bessons, ils étaient jumeaux, puis ses parents les habillaient toujours pareil. Fait qu'il y a un des deux Bessons, il s'est trompé, puis il a mouché l'autre à la place, là, tellement qu'ils se ressemblaient. C'est tout des petites jokes de main.
Oui.
Puis il parle du Coco Lounge à Tracadie, qui était un club où les gens allaient faire de la musique, parce que lui, il joue de la musique. Fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes de musique, de guitare, de spectacle comme ça. Il parle beaucoup de ses grands-parents. Ferdinand Basque, Joe Basque, lui est basque des deux côtés. Sa mère, c'est un basque, lui, c'est un basque. Son père, c'est un basque. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Des histoires sur le père Trudel, aussi à Tracadie, qui est un curé très coloré qui a finalisé, dans le fond, les travaux de l'église de Tracadie. Il y a des anecdotes sur lui. Et puis, je finirai avec les contes bûcherons, hein, parce que beaucoup de famille à lui, la famille à moi également. C'était des gens qui allaient beaucoup dans les camps de bûcherons. Il y avait toujours des épreuves de force entre les bûcherons, surtout les dimanches. Les dimanches, c'était la seule journée de congé. Ces gars-là travaillaient du lundi au samedi, soit du lever au coucher du soleil, puis ça arrêtait juste un petit peu pour dîner. Là. Je sais, moi, je me suis fait raconter qu'ils dînaient un petit peu, puis après ça, c'était pas une heure de dîner, puis des pauses. C'était beaucoup, ça travaillait. Mais le dimanche, là, c'était une journée pour se reposer ou pour faire des jeux ou des blagues.
Des tirs au poignet.
Un des concours, c'était ils avaient des cochons, là, je pense, dans le camp de bûcheron, je sais pas trop. Puis ça sentait mauvais, le cochon. Là. Fait que un des bravoures entre les gars, c'était de rentrer dans la chose de cochon, là, dans la porcherie. Fait essayer de rester là le plus longtemps possible. Parce que ça puait énormément. Là. Fait que il y a un des gars qui ne savait pas laver depuis je sais pas comment longtemps, parce qu'il ne se lavait pas tout le temps. Il a rentré dans la soue à cochon, puis il a resté là un bout de temps. Puis à un moment donné, il puait tellement que c'est les cochons qui ont sorti. Et non pas lui qui a sorti. À cause que lui, c'est longtemps qu'il ne savait pas laver.
Alors, c'est le livre de Ghislain Basque, Le Temps de rire 2.
Oui, c'est ça. Le premier est aussi disponible. Si
oui. Ah, OK. Ben, c'est intéressant.
Merci beaucoup, Philippe.
Oui, à la prochaine.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs du village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!